suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Lorsqu'ils sont vivants, les autorités s'empressent de vouloir les identifier, collecter notamment leurs empreintes digitales afin de les tracer, les empêcher de tenter de nouvelles fois de franchir les frontières. Lorsqu'ils sont morts, en revanche, ces mêmes autorités ou d'autres se fichent totalement de savoir qui ils ou elles sont. Ils et elles, ce sont les exilés qui, au péril de leur vie, traversent la Méditerranée. Deux anthropologues, Carolina Kobelinski et Filippo Furui, ont cherché à connaître ces morts de la Méditerranée. Ils sont cette semaine les invités de la suite dans les idées. Les bateaux sombrent-ils en silence ? C'est le titre d'un long poème de Timba Bema, un écrivain d'origine camerounaise qui vit en Suisse et qui nous rejoindra en seconde partie d'émission pour poursuivre cette conversation sur ce qu'on peut appeler, ce que j'avais décidé d'appeler lors d'une précédente émission avec la géographe Camille Schmoll, la Méditerranée noire. Bonjour à tous les deux, Filippo Furui, Carolina Kobelinski. Vous êtes, je le disais, anthropologue. Carolina Kobelinski, vous êtes chargée de recherche au CNRS, membre du laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative à l'université de Paris-Nanterre. Et Filippo Furui, vous êtes anthropologue, fellow de l'Institut Convergence Migration, membre aussi du réseau Migre Europe. Alors vous publiez aux éditions La Découverte « Relier les rives », un très beau titre pour une enquête que vous avez menée de longues années. Vous avez rencontré des gens très importants que vous mettez en scène dans ce livre. Vous expliquez par le menu, au fond, ce en quoi consiste une enquête de chercheurs engagés aussi auprès d'activistes, auprès de gens qui travaillent dans des ONG et qui cherchent à faire en sorte de rendre hommage, mais pas seulement, de mieux connaître aussi tous ces gens qui sont morts en traversant la mer Méditerranée. On a le sentiment, en vous lisant, que non pas tout commence parce que des choses avaient commencé avant, mais il se passe quelque chose de très important au milieu des années 2010 avec des naufrages qui font des centaines de morts, de victimes, et qui en fait produisent une sorte d'électrochoc, Carolina Kobelinski.
Oui, absolument. On pourrait dire que à partir de 2013, octobre 2013, qui est la date des deux naufrages successifs qui se succèdent au cours d'une semaine au large de Lampedusa, qui font réagir l'opinion publique et la société européenne dans son ensemble, et qui vont apporter une nouvelle visibilité à des morts qui surviennent aux frontières sud de l'Europe depuis de nombreuses années, depuis la fin des années 80. Mais c'est à partir de ces naufrages d'octobre 2013 que il y a d'une part une nouvelle visibilité médiatique, un nouvel intérêt aussi politique, quoique il faut toujours le nuancer, et des habitants et des habitantes des lieux frontières qui se mobilisent. Certains, bien sûr, qui se mobilisaient déjà, mais à partir de 2013, ils vont le faire de façon renouvelée et en articulant, en mettant en réseau leurs compétences, plus ou moins rudimentaires, celles qu'ils apprennent sur le tas, justement pour faire réseau et pour essayer d'une part de prendre en charge ces morts et d'autre part pour leur rendre hommage, pour respecter ou témoigner une forme de respect à leur égard.
C'est faire réseau. Vous allez nous décrire ces réseaux. Ils sont complexes. Ils évoluent dans le temps aussi. Mais ce qui est frappant en vous lisant, c'est au fond le fait que ça concerne d'abord et avant tout non pas seulement des militants qui seraient un petit peu partout en Europe, ils sont là, mais des gens qui habitent tout près des ports où arrivent ces navires avec des survivants et puis aussi avec des cadavres. Filippo Furui.
Tout à fait. En revenant à ce que disait Carolina, il y a une visibilisation des cas exceptionnels qui ont été attentionnés par la presse, etc. Mais nous, on s'est intéressé vraiment à la situation de tous les jours, donc à la continuité. Comment un territoire, une ville, dans notre cas Catane, a répondu à réagir à cette situation.
Plusieurs bateaux par semaine.
Plusieurs bateaux par semaine, plusieurs cas qui arrivaient, un seul, cinq, dix. Donc c'est vraiment une dynamique très très différente, diverse, et qui a produit une réaction sur la durée et une organisation continuelle. Donc ce qu'on essaye de raconter dans le livre, c'est aussi cette capacité de ce réseau, de cet ensemble de personnes à réagir, à se organiser et à trouver des solutions qui se sont développées à fur et à mesure. Donc nous on a suivi ces parcours et c'est ça qui fait l'intérêt, parce qu'il y avait comme vous le dites, il y a un noyau de personnes qui étaient directement concernés, mais tout un ensemble de personnes, je dirais même plusieurs centaines de personnes, se sont mobilisées dans des différents moments dans cette situation.
Il y a un arrière-pays en quelque sorte, il y a la côte et il y a l'arrière-pays. Je commençais l'émission en soulignant ce paradoxe qui est au cœur de quelques-unes de vos pages aussi, à savoir que c'est dans le même moment que les autorités ont cherché à enregistrer le plus possible d'empreintes digitales, avec cette espèce de frénésie de contrôle sur les hotspots, notamment en Méditerranée, que progressivement et beaucoup plus lentement, en fait, le souci d'identifier ceux qui n'intéressent pas les autorités, les morts, est monté aussi progressivement donc en puissance, Carolina Kobylinski.
Oui, absolument, il est monté en puissance, mais ce qui est important à souligner, c'est que la montée en puissance se fait du côté de la société civile et non pas des autorités. Et c'est ça qui nous a beaucoup intéressé dans le cas, c'est pas le bon terme, mais dans l'expérience voilà que nous avons suivie à Catane, c'est que les personnes qui sont au cœur de cette démarche d'identification que nous avons pu suivre sont des personnes qui étaient comme bénévoles sur le port, au moment où le port devenait un hotspot mobile et débarquait des vivants, mais aussi des morts. Et donc, ils étaient là pour assurer les kits d'hygiène pour les vivants. Et en voyant que rien n'était fait pour les morts, ils ont décidé de s'organiser dans un premier temps pour respecter, c'était leur terme, pour rendre hommage aux morts, et chemin faisant, et en découvrant justement qu'aucune autorité n'a parmi ses compétences celle d'identifier ces morts aux frontières, de trouver un moyen d'unir des forces pour mener des enquêtes qui, éventuellement, pourraient conduire à des identifications.
Connaître les morts, c'est reconnaître les morts, leur rendre hommage, mais c'est aussi connaître, d'une certaine façon, les identifier. La tâche est toujours double, en fait.
Et justement, c'est sur ce double registre qu'on a travaillé, qu'on a accompagné les personnes qui ont mis en place, qui travaillaient au sein de Restoring Family Links de Catane, notamment. Et sur ce double registre, c'est-à-dire qu'il y a la dimension éthique, aussi symbolique, de dire on donne un nom à une personne, mais des fois on s'est retrouvé sur la question de dire si on arrive à nommer une personne, on a déjà fait symboliquement un travail. Donc ça, c'est une discussion qui s'éteignait, parce que on était face à l'impossibilité, disons rationnelle, de nommer toutes les personnes qui ont été accueillies dans la ville de Catane et enterrées dans la ville de Catane. Mais de l'autre côté, à fur et à mesure qu'on avançait, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un travail technique, une pratique qui pouvait être fait. Et ça, c'est disons la deuxième partie de notre engagement et notre accompagnement, c'est-à-dire de rationaliser les données présentes, les traces, collecter les traces, les mettre ensemble, les faire parler, et les relier justement, pour essayer d'arriver à trouver une logique et une pratique qui puisse effectivement être utile à donner des noms, à la fois pour les nouveaux cas. Disons que la perspective, c'était aussi d'être efficace dans le futur, dans le présent et le futur, mais aussi au niveau rétrospectif pour pouvoir aller chercher au niveau des archives et de trouver des noms qui n'avaient pas été attribués.
Alors, Carolina Kobylinski, les gens qui, les premiers, mettent en place ce réseau, ce travail, sont, vous le disiez, des gens qui sont sur place, qui sont sur le port, qui sont là, a priori, au départ, plutôt pour aider les survivants, qui travaillent, en fait, dans quelles ONG? Comment cette chaîne se met-elle en place?
L'expérience que nous racontons dans le livre est celle d'un petit groupe de bénévoles de la Croix-Rouge locale, donc de la Croix-Rouge de Catane, qui avait obtenu un accord avec la préfecture leur permettant d'être là au moment des débarquements.
Oui, parce que j'imagine que tout ça est très fermé, pas accessible à la population locale. Il faut obtenir des passes pour y accéder.
C'est très fermé et le quai du port est une succession de tentes où il y a les différentes institutions qui prennent en charge les vivants. Et donc, ces personnes, ces hommes et femmes qui étaient intéressés par l'aide humanitaire que
classique,
la Croix-Rouge, classique, absolument classique, au fur et à mesure des activités sur le port et des débarquements qui se succèdent à partir de 2015 de façon assez assez fréquente, vont commencer à se dire qu'il fallait faire quelque chose pour les morts. Et la première chose qu'ils ont faite, c'est de savoir ce que les corps qui étaient débarqués devenaient. Donc, ça les a conduits au cimetière municipal de la ville, où ils ont pu découvrir
un carré
que l'on appelle, qui n'est pas nommé comme ça, mais que tout le monde appelle le carré migrant, et aussi un monument qui a été bâti par la mairie en 2015. Enfin, il a été inauguré en 2015, quelques mois seulement avant un gros naufrage, celui du 18 avril 2015, et qui, par la suite, va être la porte d'entrée, disons, vers l'ouverture du carré migrant. Et donc, ces bénévoles découvrent cet univers au cimetière et se disent qu'il faut mener des accords, trouver le moyen de collaborer avec les différentes institutions municipales et dépendantes du pouvoir judiciaire qui pourraient éventuellement avoir des informations de n'importe quelle nature concernant ces corps enterrés dans le carré migrant. C'est comme ça que la Croix-Rouge établit des protocoles de coopération avec les différentes institutions et qu'elle a accès aux données produites ou stockées dans les différents bureaux de l'état civil, de la police judiciaire, de la police scientifique, du cimetière, etc.
C'est un travail qui est d'autant plus difficile, Philippe Ofouri, que ces bateaux sont peuplés de gens qui viennent d'endroits très divers. C'est pas comme si les bateaux partaient d'un port avec des gens qui viennent tous de la même ville, voire du même pays. En fait, c'est particulièrement difficile, déjà ne serait-ce que de savoir de quel pays viennent ces gens qui sont morts et qui arrivent, qui sont débarqués, dont les cadavres sont débarqués sur le port.
Le gros problème, c'est justement celui-là, c'est-à-dire que... notamment quand on a affaire avec des corps qui sont retrouvés et débarqués, il y a vraiment pas beaucoup d'indices, pas beaucoup d'éléments. Le système à la fois institutionnel et de la Croix-Rouge travaille notamment avec les familles. Donc le problème, c'est retrouver les familles de quelqu'un qu'on connaît pas. Donc il y a vraiment tout un travail de...
Des familles qui, elles, de leur côté, n'ayant pas de nouvelles, se préoccupent de savoir ce que sont devenus les leurs.
Mais qui peuvent se préoccuper à distance de quelques semaines. Donc vraiment, c'est une question de temporalité, d'espace. L'espace et les temps sont complètement décalés, disons. Donc c'est très compliqué. Et donc les éléments qui sont rentrés en discussion, c'est de comprendre effectivement comment fonctionnent les mécanismes et les dispositifs de recherche standard. Et aussi de s'intéresser à tout ce qui reste en dehors. Par exemple, souvent les personnes qui ont, et là on va au-delà du cas de Catania, mais souvent les personnes qui savent quelque chose qui peut fournir des éléments concernant la personne décédée sont les survivants, des témoins, des proches, des amis qui se sont faits sur la route et qui ont des indices mais qui n'ont pas forcément la légitimité pour aller valider une identification. Donc il y a vraiment tout un travail, quand on disait réseau, il y a aussi ce réseau-là qui se met en place à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a la capacité de la société civile locale de se connecter avec les communautés migrantes locales qui peuvent, elles, trouver, et c'est arrivé dans plusieurs cas à Catane comme ailleurs, retrouver la famille de façon informelle et envoyer du coup un membre de la famille qui puisse faire lui l'identification sur place. Donc c'est il y a un réseau aussi à ces niveaux-là qui se met en place.
Vous parlez des compagnons de voyage survivants, c'est pour eux des expériences traumatisantes bien souvent. Là aussi vous vous arrêtez un moment sur cet aspect des choses, Karolina Kobylinski.
Oui, c'est vrai que le livre porte notamment sur l'expérience de ces catanais, de ces catanaises qui s'engagent pour les morts et qui de fait vont créer un lien et, avec ces morts. Mais nous avons aussi voulu dans une petite interlude dire quelque chose sur ce que veut dire que de faire cette traversée et de non seulement risquer la mort, mais aussi voir la mort des pères à côté, et de entendre parler de disparition, des corps qui sont récupérés, mais dont on ne sait pas à qui ils appartiennent. Et finalement, nous avons essayé de restituer différentes façons de vivre avec les morts, vivre avec les spectres des frontières, toutes ces entités qui hantent dans des formes très, très diverses la vie des celles et ceux qui font la traversée. Une fois qu'ils sont réussis la traversée, cela devient tout autant problématique parfois.
Si on revient au dispositif de retraçage en quelque sorte, la règle que la Croix-Rouge a mis en place, indépendamment du bureau de Catane, en fait, c'est que les demandes doivent émaner des familles qui cherchent les leurs, dont ils n'ont pas de nouvelles, en s'adressant au bureau local de la Croix-Rouge, c'est-à-dire au bureau où, à côté d'où vivent ces familles qui recherchent. Or, ce qu'a réussi ce bureau de Catane, c'est à renverser, en fait, ce principe et à en devenir le point central, en quelque sorte, vers lequel ont pu affluer des demandes. Et ça, c'est très, très important.
Je pense qu'il y a une question générale, c'est-à-dire que le Comité international de la Croix-Rouge aussi fait un travail de connexion de différents spots, de différents lieux où
des lieux de départ,
exactement. Donc ça, c'est et même des lieux de résidence des familles dans des pays, par exemple, en Scandinavie, etc. Donc la question, c'est de ce réseau aussi comment il fonctionne, mais la capacité de connecter, disons, les recherches et les lieux où le corps est supposé être arrivé, c'est très très important. Donc ce qui a été fait à Catane, ce qui a été un peu forcé au niveau de Catane, c'était de dire les corps sont là, donc on essaye de partir des corps pour essayer de montrer qu'il y a des corps qui peuvent être liés à certains événements et du coup que les familles qui éventuellement pourraient chercher seraient où venir chercher. Donc vraiment c'était un travail qui pour la dimension de ce qui était fait, c'était très à la fois symboliquement et techniquement très important.
Je citais ce chiffre pour commencer l'émission, c'est près de 30 000 personnes, probablement, enfin, on n'a évidemment pas le chiffre exact, qui ont péri en 10 ans dans la Méditerranée en essayant de la franchir. On ne sait pas combien de ces gens ont été identifiés, mais tout ce travail, évidemment, a consisté à construire une sorte de base de données, aussi imparfaite soit-elle, aussi incomplète soit-elle, pour essayer de récupérer le maximum d'informations, en fait. C'est un travail de coordination considérable entre, évidemment, avec les gens qui sont à Catane, mais aussi partout.
Oui, absolument. À Catane, la spécificité, c'est que ce groupe de bénévoles a réussi à construire une base de données locale en mettant en réseau toutes les institutions. Et donc, pour tous les corps qui sont enterrés dans le carré migrant du cimetière municipal, il a pu être retracé l'itinéraire administratif. Ce qui ne veut pas pour autant dire qu'on a énormément des pistes d'identification. Néanmoins, il a été possible de récupérer des éléments concernant l'identité civile de ces personnes. L'idée à l'origine de ce projet, et puis c'est aussi un peu un rêve d'un certain nombre de nos interlocuteurs et interlocutrices, était et est toujours de monter en généralité, et d'essayer de, si ce n'est reproduire, au moins essayer de trouver un moyen de construire des bases de données.
Mettons... Une sorte d'état civil des morts de la Méditerranée, au fond.
Quelque chose comme ça.
Mais sachant qu'il est produit par la société civile et pas par l'administration.
Oui, l'administration, ce serait peut-être un peu risqué.
Oui, parce que, alors, il y a la question de l'identification. Derrière ce mot, en fait, se recoupent des choses diverses qui font intervenir des autorités diverses aussi, de policières, mais aussi judiciaires. Qu'est-ce que ça veut dire identifier, au fond, un mort ?
Identifier. Alors déjà, du point de vue légal, c'est un peu la raison pour laquelle on s'est mobilisé à Catania et on a essayé de comprendre le dispositif, c'est que le procureur, pour l'enquêteur, il n'y a pas l'obligation d'identifier un corps décédé si c'est pas nécessaire pour l'enquête. Nous, on a entendu le procureur de Catania à l'époque nous dire, on sait que, c'était par rapport au naufrage du 18 avril 2015, où il y avait 700 corps qui étaient encore au fond de la Méditerranée.
Et lui, c'est ce bateau qui a été ensuite remis à flot avec tous ces cadavres à l'intérieur.
Exactement. Et il nous avait dit, nous, on n'a pas besoin. C'est-à-dire que je sais que les 100 corps qu'on a récupérés sont morts noyés, donc je n'ai pas besoin physiquement de récupérer les corps et de les identifier. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une distance entre l'idée de l'enquête et l'idée d'identification. C'est comme deux procédures séparées, et c'est ça la difficulté aussi qu'on a sur le terrain, c'est-à-dire pour qu'une demande d'identification soit faite, souvent il y a besoin que quelqu'un demande que les corps soient identifiés. Et des fois, c'est la famille parce qu'ils sont présents. Des fois, c'est des associations, des organisations comme la Croix-Rouge qui disent maintenant, nous, on veut, au-delà du dispositif d'enquête, qu'on puisse nommer cette personne. Ça, c'est la dimension liée forcément à la question des corps et dont on s'est occupé. Mais on est face à un dispositif d'identification des corps vivants qui est aussi violent et qui est, disons, un contrepoint par rapport à ce que nous, on a fait. Avec des ambiguïtés, c'est-à-dire que il y a des personnes qui ont été identifiées parce que, par exemple, elles ont été identifiées. Donc, on a pris des éléments biométriques à leur arrivée dans ces
photos. Les empreintes digitales ou des photos.
Des photos et un nom et une date de naissance. Après, ces personnes peuvent être décédées ailleurs et souvent leur identité, donc ils sont identifiés avec les éléments biométriques qui ont été récupérés dans les hotspots. Mais rien ne nous dit que la famille a été effectivement soit informée et que. Donc, il y aura un décalage entre la dimension identification. Du dispositif d'enquête et la dimension que nous on a plutôt essayé d'explorer avec la Croix-Rouge et toutes les personnes qui étaient mobilisées.
Carolina Kobylinski.
Oui, juste pour ajouter un autre élément, effectivement, identification, ça peut vouloir dire beaucoup de choses pour les différents acteurs et actrices auprès de qui nous avons travaillé. Mais au sein du projet, il y a eu assez rapidement un consensus sur le fait que identifier pour eux voulait dire d'une part pouvoir réunir ces corps avec les familles, donc trouver les familles. Et en deuxième lieu, assez vite aussi, identification pour le projet voulait dire trouver le moyen de faire en sorte que le tribunal permette de délivrer un acte de naissance avec un nom et un prénom, une date de naissance et une date de décès. Parce qu'ils se sont rendus compte que cela pouvait être utile aux familles pour leur vie quotidienne, en dehors du deuil et en dehors des questionnements.
De manière administrative, en fait.
De manière tout à fait administrative, pour des questions d'héritage, pour des questions de regroupement familial, pour les enfants éventuels, que c'était quelque chose de l'ordre du droit et qu'il était important pour eux que cela puisse être fait. Et c'était quelque chose qui n'était pas très clair au début, qu'ils ont découvert au fur et à mesure que les reconnaissances commençaient à s'amasser et à comprendre comment fonctionnait une administration qui elle-même était très dubitative, ne savait pas très bien quand on discutait avec les personnes qui étaient très, très engagées et très actives au sein du projet et qui travaille toujours d'ailleurs à l'état civil, nous disait mais on ne sait pas très bien comment il faut faire administrativement parlant pour passer d'un acte de naissance où il est écrit personne inconnue à un nom et un prénom. Donc des choses très très simples mais qu'il a fallu au fur et à mesure apprendre
Juste pour rajouter un petit mot, et on le raconte dans les livres parce que c'est quelque chose qui nous avait touché. Il y a une personne à l'état civil de Catania qui nous dit, qui nous parle de mort complète vis-à-vis des morts
incomplètes
par rapport à les morts sur lesquelles on était en train de travailler. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la question qu'on avait abordée et qu'on leur a soumis dont on a commencé à parler avec eux. Et je pense que ça les a un peu libérés aussi par rapport à certains non-dits, etc. C'était que on traitait quelque chose qui allait en dehors de la normalité. On parlait de l'état civil, le système du cimetière, etc. ne sont pas pensés structurellement
pour ce type de mort.
Et donc tout le dispositif a dû se remettre un peu en place, au moins s'interroger par rapport à cette question. Et c'est ça qu'on a essayé de reconstituer aussi dans notre écriture, qui est fragmentaire justement parce que ça a évolué de façon très diverse et très non synchronisée.
Vous parliez à plusieurs reprises de ce fameux naufrage du 18 avril 2015 qui a fait de très nombreuses victimes. C'est ce bateau que j'ai mis en photo, une photo que j'avais prise lors de la Biennale de Venise en 2019 parce qu'il a été montré par un artiste suisse qui avait financé le fait de sortir ce bateau de l'eau et de le montrer, d'ailleurs le montrer sans tellement plus d'informations, ce qui avait plutôt fonctionné parce que l'interrogation du public face à ce qui pouvait être regardé comme autre chose qu'une œuvre d'art et qui était un document en quelque sorte de ce qui se passait, fait partie d'un autre aspect qui cette fois non pas la connaissance mais plutôt la reconnaissance et les hommages faits à ces morts de la Méditerranée, qui vous intéresse aussi, Carolina Kobelinski, dans le livre.
Oui, dans le livre, on s'intéresse aux hommages à la fois pour ce qui est de la ville de Catane, comment la ville de Catane, lorsque les débarquements ont commencé à se succéder, a décidé de rendre hommage de façon publique dans le centre de la ville, en disant que le maire de l'époque faisait des discours où il était très clair pour lui que ce n'était que le début et qu'il fallait que l'Europe prenne ses responsabilités et que ces morts-là devaient être accueillis au sein de la ville. Nous racontons aussi quelques témoignages plus intimes, privés, que l'on voit à chaque fois que l'on est à Catane et où on visite nous aussi le cimetière et des bouquets de fleurs, des petites images presque comme des ex-voto se trouvent dans le carré migrant. Beaucoup de nos interlocuteurs nous ont dit avoir été à plusieurs reprises se recueillir devant les plaques sans nom du carré migrant, et nous abordons aussi les expressions de les formes de témoignages, d'hommages plutôt, qui sont rendus par des artistes, et non seulement à Catane, mais un peu partout ailleurs, où des artistes se font porte en eux les discours critiques à l'égard des politiques migratoires, tout en voulant exprimer une forme de dommage à l'égard des morts.
Et donc en produisant des sortes de monuments aux morts, en quelque sorte artistiques. Je reviens à ce bateau dont le simple fait d'être montré devenait cette œuvre, titrée Barca Nostra. Dans votre livre, vous racontez une scène assez incroyable et très forte d'une personne qui a été à bord de ce bateau et que vous avez accompagné voir ce bateau à quai installé pour les visiteurs de la Biennale devant l'arsenal de Venise.
Si, c'est une expérience très très forte. J'ai eu le plaisir, la chance de pouvoir l'accompagner. On s'était connu parce que j'ai collaboré, disons, aux recherches techniques par rapport à l'identification de ces victimes. Et c'est lui qui m'a demandé de l'accompagner. parce que probablement il avait besoin de remettre les choses à leur place et remettre, quand je dis remettre les choses à leur place, c'est parce que il m'a appelé, il m'a dit moi je ne suis pas là, on n'est pas là nous. C'est-à-dire que c'est les vivants comme les morts ont été extraits, hein, extromis de cette épave qui est devenue d'abord un objet de forensique, des techniques et d'attention technique, et après un objet d'art. Et eux, ils ont été complètement éliminés de cet espace, de cet débat, n'ont jamais été interpellés. Et le voir exposé lui a sollicité, donc on est allé le voir. Et je pense que ça a été une énorme libération quand il a pu dire à deux touristes, d'ailleurs français, qui parlaient français, qui étaient en train de regarder l'épave, il s'est dit, peut-être que c'est un épave, peut-être... sans justement, c'est les précisions dont l'artiste n'avait pas voulu il n'a pas voulu donner des informations, donc il s'est posé des questions. Et ce garçon s'est approché d'eux, leur a dit, vous savez, moi j'étais là-dessus. Moi, je faisais partie de ces personnes, ce qui a été une scène, micro-scène, invisible, parce que personne s'est rendu compte, sauf nous, mais qui a, voilà, comme je disais, qui a remis un peu les choses à leur place, au moins pour lui.
Les bateaux ne sombrent donc pas toujours en silence. Pour commenter le titre de ce long poème, Les bateaux sombrent-ils en silence, de Timba Bema, qui va nous rejoindre dans la seconde partie de cette émission. Pour continuer à parler de ces morts de la Méditerranée, c'est après un extrait du nouvel album de Iron and Wine, un titre pour lequel ils ont invité Fiona Apple, All in Good Time.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
All in good time, I gave it my best. I was alone till I found myself. Grew up to be a man, more or less, all in good time.
All in good time, I drifted away. I ran my mouth till I had nothing to say. You broke my heart, then I was okay. All in good time.
Trusted my eyes, treated my losses like clouds in the sky. Finally picked on some of my size. All in good time.
All in good time, I followed my nose. Learned where to bleed when a night comes to blows. Tried on your love, then I folded those clothes. All in good time.
Throw your bread to falling birds.
Buried friends and wasted words. Something wants to eat us all alive.
All in good time, my angel came back. Paid us some money, but that didn't last.
We wouldn't cry, but we couldn't laugh.
All in good time. All in good time, we felt like a star.
We closed our eyes and we opened our arms.
And off the road, our own stolen car. All in good time.
Mattress for love.
Dropped all our weapons and shrank from the blood. All in good time.
All in good time, we'd nothing to prove.
We took the bait till we'd lost the tooth.
No one believed it, but we told the truth. All in good time.
I told my future by reading your lips.
You wore my ring until it didn't fit. All in good time.
All in good time, we suffered enough. We met our muscle when push came to shove.
Swept all that broken glass under the rug.
All in good time. Dancing till we both collapsed.
wishing we could hide our tracks. Something wants to eat us all alive. All in good time, we'll remember when. Say our goodbyes and our hellos again.
Puff and we'll puff until they let us in. All in good time.
All in good time, we'll land on our feet. Your mother will sigh and my soldier will sleep.
We'll swim in the ocean, fishes set free. All in good time.
We'll swim the ocean. All in good time.
Nous sommes sur les traces des morts en Méditerranée aujourd'hui à la suite dans les idées avec deux anthropologues, Carolina Kobelinski et Filippo Furi, et avec un écrivain, Timba Bema. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à distance avec nous depuis la Suisse. Vous avez publié au début de l'année 2019 « Les bateaux sombrent-ils en silence ?» ce que vous appelez une variation poétique parue donc chez un petit éditeur de Brest, les éditions Stella Maris. Qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ce long poème ?
Oui, en fait, déjà, c'est le fait d'être interloqué par le nombre de morts en Méditerranée, voilà, on va dire que c'est vraiment le phénomène de notre temps. Et puis, donc partant en fait de là, de s'interroger aussi sur depuis quand est-ce que cela se produit, quel est le début de cette histoire-là. Et cela m'a en fait amené justement à faire un parallèle, par exemple, avec ce qu'on appelle la tête négrière, moi que je préfère appeler le Yovod, hein, c'est-à-dire c'est la déportation en fait massive des Noirs vers les Amériques notamment. Et puis il y a aussi un autre phénomène encore très intéressant, c'est notamment le statut même de la Méditerranée, par exemple, qui a changé en même temps que le statut des mers. C'est-à-dire qu'on va dire dès 1900...
Timba Bema, on vous entend très loin. Est-ce que vous pourriez éventuellement vous rapprocher de votre micro?
Oui, là je suis sur
voilà, c'est mieux.
Le micro. Okay,
merci.
Parfait. Voilà. Et donc en fait, il y a aussi notamment la date pivotale de 1492, hein, c'est-à-dire que qui est vraiment la date de la découverte de l'Amérique, mais qui traduit en fait cette expansion-là extraordinaire dont de l'Europe vers le monde, et en fait qui traduit la conquête de la mer. Et je pense que c'est une date pivotale parce que même le statut de la Méditerranée, qui était une mer d'échange notamment en Antiquité entre l'Afrique, l'Asie et puis l'Europe, va totalement changer de statut aussi. Et puisqu'on assiste à l'heure actuelle, soit qu'on assiste, c'est-à-dire ces murs qui se dressent comme ça, partent justement de cette période-là. Donc c'est un peu pour sortir quelque part de l'anonymat de ces morts et d'ancrer en fait les morts de maintenant dans une longue histoire finalement que je suis parti sur la rédaction de cette variation poétique.
Alors, je le disais tout à l'heure, une précédente émission avec la géographe Camille Schmoll était titrée « Méditerranée noire ». En fait, j'avais emprunté cette expression à Achille Mbembe qui, dans un texte lui-même, faisait cet écho au titre « L'Atlantique noire », titre du livre de Paul Gilroy, très, très important. Ça vous semble, vous qui êtes anthropologue, de faire ce parallèle, d'inscrire ce qui se passe en Méditerranée depuis maintenant des dizaines d'années dans une histoire beaucoup plus longue, vous semble pertinent?
Je pense que la société dans laquelle on vit est héritière de tout cela et on ne pourrait pas en faire l'économie. Et justement, on parlait tout à l'heure de visibilité ou plutôt d'invisibilité de ces morts, comme par hasard, ou peut-être ce n'est pas un hasard, ce sont les mêmes vies qui sont invisibilisées et qui ne sont pas accessibles au deuil. Pour parler comme Judith Butler. Et donc, de ce fait-là, il y a une forme de continuité, ou en tout cas des liens à établir avec une histoire plus longue, des vies qui ne sont pas, qui sont inégales, qui ne sont pas comme les autres.
Timba Bema, vous avez... Donc rédiger ce que vous appelez une variation poétique et qui puisse sa source, si j'ose dire, aussi dans des traditions littéraires du Cameroun d'où vous venez. Cette tradition dans laquelle le bateau occupe une place importante.
Oui, parce que ce qui, en fait, je pense que ce qui peut être dénominateur commun ici, c'est l'eau, déjà. Et puis, ben, l'élément, en fait, à partir duquel on conquiert l'eau, c'est le bateau. Et donc, le bateau, en fait, c'est un élément qui est très symbolique, hein. Par exemple, en fait, l'instrument, on va dire, de la conquête de la mer par l'Europe, ça a été le bateau. Et donc, il y a quand même quelque chose comme ça, c'est très intéressant, comme, par exemple, la fusée devient l'instrument de conquête de l'espace, et puis ainsi de suite, ou bien l'avion devient l'instrument, par exemple, de conquête des airs. Et donc, le bateau devient, en fait, ici essentiel, parce que c'est le véhicule. Donc, ça véhicule, en fait, beaucoup de choses. Et ce qui m'intéressait aussi, justement, c'est de voir les changements de statut. C'est pour ça, en fait, que la question de variation poétique m'intéresse énormément, parce que le bateau, par exemple, c'est un élément très vivant. C'est-à-dire que ça vient de l'arbre, par exemple. Donc c'est un arbre qui est coupé, qui est formé en bateau. Et donc c'est tout ça qui m'intéressait. C'est en fait comment est-ce que finalement on prend la vie, un élément de la vie, et puis à partir de cet élément de la vie-là, on détruit finalement d'autres vies. Parce que la réalité en fait de tout cela, c'est la destruction des vies. À partir de vies qui se sont constituées par exemple comme les arbres sur de très longues périodes.
Philippe Ofoury. On parlait du bateau, de la mer, de l'eau comme quelque chose d'important. Ces morts ont cela en commun, d'être morts dans l'eau ou asphyxiés par manque d'oxygène, mais en tous les cas sur la mer, dans la mer. Quel que soit d'ailleurs leur rapport au départ initial à la mer, la plupart d'entre eux ne savent pas nager. Certains viennent probablement de pays qui ont des côtes ou évidemment des fleuves, mais leur rapport à l'eau est probablement différent. Est-ce que ce sont des choses dont vous avez, à propos desquelles vous avez pu échanger aussi bien avec les survivants qu'avec ces Catanais qui, eux, sont des gens de la mer de manière très, très forte?
Un de nos trois interlocuteurs privilégiés, disons, est un passionné de la mer. D'ailleurs, de vous entendre en Bretagne, ça me fait penser que dans nos réflexions, dans nos discussions, il y a des éléments sur l'espace de la mer qui sont rentrés en écho. Par exemple, les rituels de sépultures, les simulacres, la simulation de sépultures quand les morts disparaissaient
en mer.
En Bretagne, il y a des traditions aussi à ce niveau-là. Donc oui, il y a les gens de la mer, les gens d'une ville portuaire qui a une histoire de commerce, qui est sur la mer, qui vit avec la mer comme Catania, et l'histoire des personnes connues ou pas connues, des personnes qui se sont retrouvées en mer, mais qui ont abordé cette mer comme une frontière, comme un espace à franchir, quoi. Donc avec aucune relation préalable, disons, avec cet espace, avec cette. Et c'est intéressant aussi, donc, quand on parle des variations et des renvois dans le poème, dans le livre, on a presque dû l'insérer parce que c'est gravé sur le monument. Il y a un poème du prix Nobel de la littérature Wole Soyinka,
écrivain nigérian, oui,
totalement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui revient un peu dans notre travail. Tous les deux, on a travaillé sur l'accueil auparavant, et moi j'avais travaillé sur le Parlement international des écrivains, donc cette idée de mobilisation des villes sur l'accueil.
Dans lequel Wole Soyinka était engagé, aux côtés d'Edouard Glissant, de Salman Rushdie.
Exactement.
Par exemple.
Et on le retrouve dans une autre forme d'accueil, qui est celle aux personnes décédées, et donc il y a une espèce de retour sur cette histoire aussi personnelle. Et les poèmes, je reviens un peu à la question sur la mer, bon, le poème raconte un peu de cette expérience, de cette perte de mémoire, et de à la fin c'est les objets, c'est le fond de la mer, etc., qui vont garder cette mémoire. Et je trouve que c'est bon, on a vraiment désiré le mettre dans cette livre, parce que je pensais qu'il était très parlant.
Carolina Kolbenski.
Sur un autre versant des rapports à la mer, nous racontons dans le livre comment, pour l'une des Catanaises investie dans ce projet et qui travaille à l'état civil, donc qui a grandi auprès de la mer, et pour qui le côtoiement de ces morts pas comme les autres, comme elle disait, et en découvrant en quelque sorte l'histoire ou les histoires de ces personnes qui décèdent en voulant arriver en Europe, elle nous racontait que pour elle, la mer n'était plus la même, que sa façon de concevoir le paysage qui était pour elle quotidien avait changé. Et donc que son rapport aux morts avait un pouvoir transformateur, y compris des choses aussi essentielles pour elle que la mer.
Il y a des gens pour lesquels il est devenu difficile de se baigner aujourd'hui dans la Méditerranée. Quand vous avez écrit ce poème, cette variation poétique, est-ce que vous vous êtes poser la question de l'identité dont nous parlions, de ces gens qui sont morts. Est-ce que vous avez essayé de vous les représenter?
Et c'est peut-être ça même que j'ai trouvé très foudroyant, en fait, hein, au niveau de l'écriture. C'est en fait que c'est le parallèle, par exemple, qui peut être fait, c'est-à-dire dans cette destruction, en fait, de la matière humaine, c'est-à-dire c'est le parallèle qui peut être fait entre ce qui est détruit comme être humain aujourd'hui et ce qui a été détruit comme être humain, par exemple, depuis 1492, donc notamment à travers la déportation des Noirs et puis tous les peuples, par exemple, amérindiens, puis ainsi de suite, qui ont été décimés. Et c'est ça, en fait, c'est ce cycle historique, en fait, qui m'intéressait. Et c'est pour ça que je parle de variation historique, parce que je suis vraiment en train de me balader quelque part sur près de 600 ans. Hein. C'est un peu 600 ans d'histoire. Donc, et c'est ces 600 ans d'histoire-là qui sont, à mon avis, essentiels de saisir. Et pour nous, acteurs, maintenant, c'est vrai que les morts, finalement, deviennent quelque part anonymes, mais ils racontent une histoire, en fait, qui les réunit, hein, qui les unit, et puis qui marque, finalement, en fait, qui est un grand marqueur de notre temps. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un temps de l'humanité qui s'est ouvert en 1492, et c'est ce temps-là en fait que les morts de la Méditerranée racontent, de la même manière que déjà les morts de 1502 et puis racontaient déjà aussi. Donc c'est ça, je pense, qui est l'élément déterminant. C'est vraiment de ne jamais isoler, hein, parce que je sais que nous avons un peu cette tendance-là dans le narratif, hein, dans la façon de raconter en fait les catastrophes, d'isoler l'histoire, un peu comme si la catastrophe surgissait en fait comme ça d'elle-même, comme une sorte de Deus ex machina. Mais ce qui est essentiel ici, c'est de rattacher cela avec l'histoire. Et c'est là où, en fait, le tragique, finalement, devient encore plus poignant. De rattacher tout avec l'histoire.
Philippe Aufoury.
Si, je reviens sur ce que vous dites. La question, c'est la disparition. Le problème, c'est la disparition. Nous, on a travaillé sur quelques corps, mais énormément d'autres corps disparaissent. Donc,
c'est une infime minorité qui parvient à être identifiée.
L'idée, c'est d'essayer de garder présent cette mémoire collective aussi des personnes qui disparaissent, qui ne sont plus là.
Merci Tim Babema. Les bateaux sombrent-ils en silence? C'est le titre de votre variation poétique aux éditions Stella Maris. Et merci Carolina Kobelinski, Philippe Aufoury. Relier les rives sur les traces des morts en Méditerranée. Le livre paraît aux éditions La Découverte. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Seam Boutata, à la technique aujourd'hui Alexandre Dang, à la réalisation Anne-Laure Chanel.